Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. La crise climatique, les changements géopolitiques à l'échelle planétaire associés à la révolution numérique ne nous laissent aujourd'hui aucun répit. Paysage en destruction, explosions, cohortes de familles jetées sur les routes, baluchons au bras et bébés au dos, enfants émaciés. De plus en plus d'informations de catastrophes en continu, partout, en direct, en boucle, à la télé, la radio et sur les smartphones. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons nous interroger sur les conséquences de cette actualité anxiogène pour notre santé mentale. Comment faire face et ne pas céder à la déprime à force d'écouter, de visualiser ce flot de nouvelles déprimantes justement. Comment réagir sans pour autant tomber dans l'indifférence? Cyclone et dévastation, guerre et discours de haine, quel remède face à la violence de l'époque? Peut-on prévenir l'anxiété induite par un certain sentiment d'impuissance? Si vous souhaitez témoigner, poser des questions sur votre ressenti à l'écoute de cette brutalité du quotidien que vous suivez de près ou de loin, vous pouvez nous joindre au 33 7 61 18 46 41, le numéro WhatsApp de Priorité Santé. Existe-t-il des remèdes à l'éco-anxiété? Risque-t-on de devenir intolérant à l'actualité à force de mauvaises nouvelles? Comment rester informé sans tomber dans la déprime? Question qu'on va aborder avec vous aujourd'hui, professeur Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à PHP à Créteil, également professeur de médecine à l'université Paris-Est Créteil. Le regard de votre confrère du Sénégal, le professeur Idriss Abba, professeur agrégé en psychiatrie d'adultes, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il sera tout à l'heure en ligne avec nous. Et puis, l'illustration très concrète de notre sujet du jour, catastrophe climatique. On va évoquer tout de suite la situation à Mayotte avec le président de Médecins du Monde. Dévastation, urgence généralisée, 4 jours après le passage du puissant cyclone Chido. Difficile mesure des dégâts, des besoins, alors que le bilan humain reste encore impossible à évaluer.
Priorité Santé sur RFI.
C'est donc avec vous, hein, docteur Jean-François Corti, qu'on va commencer cette émission. Vous êtes le président de Médecins du Monde. Docteur Corti, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous rapportent les équipes de Médecins du Monde qui sont en ce moment même déployées à Mayotte et font face à une situation catastrophique depuis maintenant 4 jours?
Oui, on a des équipes qui sont présentes de longue date à Mayotte parce que c'est un territoire, le 101e département français, qui près de 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est près de 30% de cette population qui n'a pas accès à de l'eau potable régulièrement et qui vit dans des bangas, c'est-à-dire ces fameux bidonvilles. La situation reste très chaotique, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ce que les autorités françaises arrivent à communiquer. On a une trentaine de personnes dont 10 pour lesquels nous n'avons pas de nouvelles encore, à l'image de nos collègues de la Croix-Rouge qui n'ont pas de contact de près de 200 bénévoles. La plupart de nos bénévoles et salariés sont sécurisés, mais il y a 10 personnes qui vivaient dans les bidonvilles pour lesquelles on n'a pas encore de nouvelles. Probablement, on l'espère, liées aux difficultés de communication parce qu'il n'y a pratiquement pas d'électricité, l'Internet est coupé à beaucoup d'endroits. Le téléphone aussi ne marche pas dans plusieurs lieux, donc on espère que c'est simplement pour des problèmes de communication. On est sur un contexte d'urgence vitale, vous l'avez rappelé, les chiffres ne sont pas clairs. On voit les autorités en difficulté pour avoir un bilan, même après plusieurs jours de catastrophe, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des besoins urgents en matière d'accès à l'eau, à l'hygiène, à la reconstruction d'un système de santé, notamment périphérique, qui était déjà défaillant, mais qui va devoir être effectif pour apporter du soin au plus proche des populations, notamment les plus précaires. Et puis, il y a l'idée aussi de prévenir, notamment les problématiques de santé mentale qui vont apparaître, la problématique de l'hébergement, parce qu'aujourd'hui, tous les bangas ont été détruits, donc c'est 150 000 personnes sans abri, et puis la prévention des risques épidémiques. Dans une catastrophe naturelle, il n'y a pas forcément spontanément d'épidémie, mais sur des territoires endémiques, et je pense à Mayotte, notamment le choléra, qui était encore présent de manière épidémique au début de l'année, il va falloir être très vigilant sur le suivi en veille sanitaire de ces épidémies.
Un défi absolument gigantesque. Est-ce qu'il y a des situations, des précédents qu'on peut rapprocher de ce qui se passe en ce moment à Mayotte? J'imagine pas en tout cas très récemment, hein, sur un territoire français.
Non, sur le territoire français, non, mais on a vu, y compris dans les pays riches comme les États-Unis, des ouragans comme Katrina étaient très mortifères, notamment pour les populations précaires qui ne peuvent pas en général s'échapper, qui n'ont pas de réseau de solidarité, qui vivent dans des bidonvilles. Aujourd'hui, Mayotte, c'est un peu cette situation. C'est d'abord une île, donc lorsque vous avez un cyclone qui arrive, vous ne pouvez pas vous échapper de ce territoire. Et puis, c'est un contexte où vous avez près de 20 000 expulsions chaque année de personnes en situation administrative précaire. Et donc, il y a une énorme pression répressive au quotidien qui fait que vous avez peur de vous déplacer pour aller chercher à manger, pour chercher du travail, pour vous soigner. Et nous, dans nos consultations, habituellement, on voit souvent des patients qui n'ont pas l'aide médicale d'État, parce que là-bas, ça n'existe pas, qui arrivent dans des tableaux médicaux assez avancés. Donc, avant la catastrophe de ce week-end, très peu de personnes en situation administrative précaire se sont déplacées vers des centres, on va dire, protégés du fait de la peur du déplacement. Et donc, on va avoir probablement beaucoup de morts précaires parce que pas d'abri en dur pour eux, manque d'anticipation. Ça, c'est le temps des polémiques qui viendra rapidement. Aujourd'hui, on est très mobilisés autour de l'aide. Il faut avoir aussi en représentation le fait que dans les 24 à 48 premières heures, c'est toujours les acteurs locaux, les familles, les proches qui vont faire les gestes qui sauvent. Et l'aide, ensuite, on va dire, des autorités se met en place progressivement. Elle est nécessaire, elle est urgente. Mais il faut avoir en tête ce déterminant-là. Il va falloir inscrire l'aide dans la durée. D'abord, répondre aux blessés, assurer la continuité des soins pour les maladies chroniques. Ça va être pas simple dans notamment les centres de santé de périphérie qui sont détruits. Et puis, c'est la santé mentale et assurer l'aide dans la continuité et prévenir les épidémies. Nous, Médecins du Monde, on va s'inscrire dans la coordination de l'aide apportée par les autorités françaises en espérant qu'elle s'inscrive dans la durée, parce que c'est souvent ça le problème aussi, c'est qu'après le temps politique et médiatique, on oublie ce qui reste dehors.
Précisément, la coordination, est-ce qu'il y a déjà des échos de comment s'organiser? Est-ce qu'on peut imaginer quoi sur place? Par exemple, l'hébergement, évidemment, l'urgence de l'hébergement, il y a l'eau, il y a la nourriture. C'est vrai qu'il y a des messages assez inquiétants de par la configuration géographique, hein, cette île. Des camps provisoires pourraient être installés ou on est encore trop tôt là dans ce qui s'est passé pour le savoir?
Alors, on est sur un territoire où il y avait déjà 30% de la population qui était sans accès à l'eau potable de manière chronique. La distribution de bouteilles d'eau, ça se fait régulièrement. 70% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, c'est environ 80 médecins pour 100 000 habitants. En métropole, c'est environ 280. Donc, on était déjà sur des dispositifs de droit commun assez défaillants et limités. Donc là, il n'y a pratiquement plus rien. Et donc, il y a une hiérarchisation, effectivement, de l'aide et des urgences vitales. Ça commence par les blessés, dont certains ont déjà été évacués vers la Réunion. Le centre hospitalier de Mamoudzou fonctionne relativement bien, mais il ne va pas pouvoir absorber tous les blessés et les maladies chroniques à assurer dans une continuité, notamment pour les personnes qui se trouvent à l'échelle de l'île au global. Hein. Il y a encore des routes qui sont difficiles à déblayer. Il y a beaucoup de personnes, comme vous l'évoquez, qui ne vont pas venir à Mamoudzou pour plein de raisons, notamment la peur du déplacement. Mmh. Et puis donc assurer l'accès à l'eau, à la nourriture, parce que le territoire n'est pas autosuffisant. Il y a un défi logistique majeur parce que l'île est excentrée, elle est loin de tout, vous le savez. L'aéroport est détruit, donc c'est que les avions militaires qui se posent aujourd'hui. Les bateaux vont mettre un peu plus de temps pour arriver. Donc nous, on s'inscrit dans la coordination effectivement sanitaire locale avec l'Agence régionale de santé, notamment avec une cellule de crise préfectorale. On essaie d'abord de sécuriser nos équipes, je vous l'évoquais. On va envoyer du renfort, des équipes d'urgentistes qui sont sur le pied de guerre, je dirais, prêts à partir. On va aussi calibrer le matériel nécessaire en fonction des évaluations qu'on va faire, notamment pour appuyer ce qui manquerait en termes sanitaires. Et puis, il va surtout loger les personnes sans abri. Comme je vous le disais, c'est tous les bangas, les bidonvilles qui ont été détruits. Donc, il y a des distributions de bâches qui ont commencé. Il va falloir distribuer aussi tout ce qui relève de moustiquaires, parce qu'en plus du choléra, il y a du palu, il y a de la lèpre, il y a tout un tas de maladies tropicales, il y a de la dengue, du chikungunya potentiellement. Donc voilà, il va falloir anticiper tous ces enjeux-là. Le volet santé mentale va être fondamental, le volet suivi de maladies chroniques aussi à suivre. Donc on est sur une situation où il y a un besoin de tout dans un contexte déjà très précaire, avec un défi logistique lié entre autres à la difficulté d'accessibilité à cette île qui est très reculée.
Docteur Jean-François Cortier, un grand merci pour ces réponses aux questions de priorité
merci
santé.
À vous.
On vous retrouve dans les studios de RFI, professeur Pellissolo. On disait bien sûr l'urgence vitale d'abord, mettre à l'abri, apporter les toutes premières besoins de première nécessité, la nourriture, l'eau et puis les soins d'urgence. Mais il y a aussi cette question de la santé mentale, une illustration extrêmement concrète, catastrophe naturelle, image de désolation. Et là, on n'est pas indifférent. Alors, il y a bien évidemment la santé mentale des victimes, ça c'est en premier lieu. Et puis, il y a là, on va dire, la santé mentale des spectateurs, des citoyens du monde.
Oui, alors en tout cas, sur place, je crois que là, toute la population, on peut malheureusement penser qu'elle sera fragilisée. Alors, il faut penser notamment aussi à toutes les personnes déjà malades avant, qui ont des troubles psychiatriques en temps habituel. Et on sait que c'est un territoire où il y a déjà beaucoup de manque de soins, hein, de psychiatres ou de psychiatrie. Donc, évidemment, les personnes déjà fragiles avant, les personnes impactées dans leur chair quand elles ont été blessées, victimes, ou proches de personnes disparues, parce qu'il y a aussi la question du deuil dans ces cas-là, et toute la question aussi d'un avenir qu'il faut reconstruire avec évidemment toutes les incertitudes qu'il peut y avoir et toutes les difficultés de vie. Donc c'est un chantier immense, effectivement aussi pour la santé mentale.
Alors il y a le ressenti aussi à distance, il y a ces images, et puis un choc au niveau régional, comme en témoigne un auditeur des Comores, l'archipel voisin, hein, de Moroni. Mohamed nous a adressé ce message sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
Bonjour. Je m'appelle Mohamed Mbaye, j'ai 39 ans, je vis à Moroni, aux Comores. Le cyclone Chido s'est abattu dans l'archipel et cela ranime des mauvais souvenirs parce qu'il y a 5 ans, les Comores ont vécu l'un des moments les plus difficiles de leur histoire à travers le cyclone Kenneth. Et 5 ans après, nous revivons la même histoire. Cela a fait naître un sentiment de peur et de traumatisme. J'aimerais donc poser cette question. Comment peut-on vivre dans un milieu menacé par le dérèglement climatique ?
Vivre en zone sensible, hein, témoignage de Mohamed, professeur Pellissolo. Le cadre de vie devient menace, alors que normalement, quand on habite quelque part, c'est pour se protéger, c'est la notion d'abri. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un risque dans ces zones qui sont sujettes régulièrement à des problèmes climatiques, par exemple, une sorte de réactivation du traumatisme ?
Oui, parce que vraiment le propre des troubles du traumatisme, du psychotraumatisme, c'est souvent d'être un petit peu refermé comme une cicatrice. C'est une blessure profonde, hein, le psychotraumatisme. Et souvent, on le dépasse un peu par l'oubli d'une partie des choses quand on n'a pas plus la chance d'être accompagné et soigné. Et on sait qu'à tout nouvel événement, que ça soit direct ou juste dans l'actualité, en effet, mais là c'est encore plus proche, hein, pour les personnes qui vivent dans la zone, évidemment ça rouvre cette cicatrice avec tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, on sait que malheureusement, quand il n'y a pas un accompagnement suffisant, et c'est toujours difficile, le trauma se réactive et souvent de manière plus sévère ensuite. Donc ça nécessite vraiment, enfin ça insiste sur le fait qu'il faut essayer d'accompagner les victimes du mieux possible, le plus tôt possible, on dit. C'est pour ça qu'il y a des équipes normalement qui peuvent intervenir peu de temps après les dégâts. Alors évidemment, l'urgence est d'abord vitale, mais il y a aussi le fait de pouvoir être accompagné psychologiquement.
Alors il y a 3 ans, vous aviez justement signé le livre « Les émotions du dérèglement climatique », professeur Pellissolo aux éditions de Citre. L'an dernier, on a vu cette expression « éco-anxiété » faire son apparition dans le dictionnaire. Est-ce que ça devient un champ, notamment de la recherche et du travail psy, mais au-delà, dans nos sociétés, un champ à part entière ?
Un petit peu, pas assez je dirais, mais en effet il y a tout un champ de la psychologie qu'on a tendance à appeler éco-psychologie, dans lequel il y a la question en effet des inquiétudes, des angoisses liées au climat, mais il y a aussi tous les effets, on peut dire environnementaux, sur la santé mentale, directement, parce qu'on sait malheureusement qu'en plus des effets physiques, médicaux sur la santé, de la pollution, de la chaleur, il y a aussi des effets psychologiques directs, avec une aggravation des risques de maladies mentales, liés au climat, liés à la pollution. Donc c'est toute une science de l'effet de l'environnement sur la santé. Alors il y a les événements vraiment brutaux tels qu'on les a vus là, les événements climatiques extrêmes, dont on sait maintenant avec du recul qu'ils ont plus, ils laissent plus de séquelles psychologiques sous forme de psychotraumatisme notamment, mais pas que, il y a la dépression aussi, ou d'autres formes, les addictions notamment, que de séquelles physiques. Hein, il y a vraiment, quantitativement, plus de blessés psychiques que de blessés physiques. Donc ça, c'est un champ à part entière. Mais après, il y a en effet tout le champ de l'inquiétude de tout un chacun sur la perspective d'avenir de la planète. Alors, c'est ça qu'on appelle l'éco-anxiété. Il y a d'autres termes, parce que ça décrit vraiment toutes les détresses. C'est pas que d'anxiété, ça peut être beaucoup aussi de réactions émotionnelles, comme de la colère face à l'inaction, qui est vraiment aussi un des motifs d'inquiétude majeure des jeunes notamment. Il y a la peur, mais il y a aussi la colère ou la frustration, la culpabilisation, enfin beaucoup d'effets sur le mental.
Alors effectivement, il y a les faits, mais il y a aussi cette absence de répit, professeur Pellissolo, qui est directement liée à l'évolution technologique, l'inclusion du numérique dans notre sphère privée. On n'est jamais coupé des bonnes comme des mauvaises nouvelles, et j'ai envie de dire peut-être davantage encore des images chocs.
Bien sûr, alors d'autant plus que le système est un peu organisé, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sait que les écrans sont quand même portés par exemple, des industries qui ont besoin d'attirer notre attention, qui vivent de ça, voilà, et avec une captation d'attention, comme on dit. Alors, il y a deux façons de capter notre attention, soit faire des choses qui sont un peu excitantes, entre guillemets, tout ce qui est soit distraction, amusement, pornographie, sexualité, ça c'est une des voies, et puis l'autre voie qui permet de capter notre attention, c'est les peurs, et donc tout ce qui est stimulation d'inquiétude. Alors, parfois, c'est à bon escient, le fait d'avoir des informations sur le monde, ça peut être essentiel, mais on sait bien qu'il y a donc cette industrie qui nous conditionne à tout le temps dans la recherche d'informations, et il y a un trouble, alors qui n'est pas vraiment une maladie non plus, moi je pense qu'il ne faut pas psychiatriser, mais on appelle la nomophobie, la peur de ne pas être au courant des choses, et donc d'être dépendant de son smartphone en général, ou en tout cas des écrans, qu'on voit chez des personnes qui sont vraiment dans l'idée qu'il faut à tout prix être au courant à tout moment. Et c'est ça qui pose problème, c'est la continuité. Parce que quand c'est de temps en temps et choisi, il n'y a pas de problème, quand on a le temps aussi en plus de débriefer, de métaboliser. Mais quand c'est en permanence, on ouvre des questions tout le temps sur ce qui se passe à droite, à gauche et même près de chez soi, c'est sans fin. Et l'anxiété, c'est fait pour résoudre des problèmes normalement. C'est fait pour identifier les problèmes, les examiner et résoudre des choses. Sauf que là, évidemment, c'est des données tellement virtuelles sur lesquelles on n'a pas de prise parce que c'est l'avenir ou parce que c'est loin de chez soi. On ouvre l'attention, on est focalisé et on n'a jamais de solution. Donc on tourne en boucle et c'est là qu'il y a un risque pour l'attention anxieuse, pour parfois même une forme de fatigue, vous disiez.
Fatigue informationnelle.
De dépression même derrière, possiblement.
Un premier témoignage tout de suite, on part pour la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
En ligne avec nous, c'est Joseph. Joseph, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous avez 19 ans, Joseph, vous êtes étudiant en médecine et vous travaillez précisément sur ces questions d'environnement. De quelle manière ?
Eh bien, alors déjà, je suis passionné par l'environnement, le climat.
Oui.
Et la santé humaine. Donc, l'interaction entre ces trois choses-là vraiment m'intéresse beaucoup. Et voilà, j'ai vraiment des préoccupations et des inquiétudes à vous faire part aujourd'hui.
Alors, précisément, Kinshasa, est-ce que dans votre environnement direct, vous êtes le témoin, oui, vous avez vécu des incidents, voire même des catastrophes associées à ce changement climatique ?
Oui, déjà avec de périodes de très forte chaleur quand nous sommes en train de vivre. Et à part ça, il y a ces pluies qui s'enchaînent et des inondations qui détruisent vraiment des routes. Et c'est vraiment difficile de se déplacer à Kin.
C'est vrai qu'on a vu des scènes absolument spectaculaires, hein, de rues complètement submergées dans une capitale. C'est toujours impressionnant. Qu'est-ce qui s'en dit autour de vous, Joseph, justement, de cette situation qui peut être parfois même catastrophique ?
Alors, là est mon inquiétude. Ouais. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'informations par rapport à ces sujets climatiques. Il n'y a pas vraiment d'informations. Et voilà, nous sommes vraiment dans l'ignorance des choses. Et c'est ce qui m'effraie le plus.
Donc, ce qui vous effraie, c'est quoi ? C'est qu'on n'en parle pas assez ? Ou que selon vous, les autorités ne prennent pas le taureau par les cornes et ne s'occupent pas du dossier ?
C'est deux choses. Ouais. D'abord, on n'en parle pas assez et on n'agit pas. On n'agit pas et nous attendons peut-être de méga catastrophes, je ne sais pas, pour agir. Alors que dans la situation actuelle des choses, déjà, c'est compliqué de gérer tout ce que nous sommes en train de vivre comme conséquence. Et Voilà, pour l'avenir, je ne sais pas.
Vous avez 19 ans, Joseph. Vous avez l'impression que cette question-là, aujourd'hui, votre source d'inquiétude, elle est partagée chez vos camarades, dans votre génération, chez les jeunes ?
Oui, oui, elle est partagée par certains, certains. Mais la plupart, comme je l'ai dit au début, restent encore dans l'ignorance des choses. Et c'est ça le pire, c'est ça vraiment le pire.
Et vos questions, justement, vous avez un spécialiste de la santé mentale qui vous écoute en ce moment même, le professeur Pellissolo. Je vous en prie, Joseph, posez-lui vos questions.
Alors, professeur, moi, je me demande comment est-ce que nous, jeunes, pouvons gérer au mieux ces stress, cette anxiété-là, souvent qualifiée écologique ou climatique, que nous sommes en train de vivre. C'est une incertitude de l'avenir, parfois. Alors, comment on peut gérer ça? Parce que voilà, ça nous paralyse et demain fait peur.
C'est de la santé mentale, sont aussi des questions existentielles, professeur Antoine Pellissolo. Hein. Joseph, c'est un étudiant conscient, il se sent parfois un petit peu seul dans sa prise de conscience.
Oui, alors je salue Joseph et je vraiment salue sa prise de parole. C'est souvent la première plainte, en effet, des personnes qui sont dans la souffrance à ce sujet-là, de se sentir seul, incompris, pas écouté et souvent même parfois moqué, hein, rejeté. Alors, on a fait face pendant des années, mais je pense que ça reste encore le cas, à une forme de scepticisme, hein, sur ces questions-là, avec beaucoup de déni. Bon, pendant très longtemps, maintenant c'est moins sur la place publique, mais il suffit de voir les dernières élections aux États-Unis où clairement le sujet ne semble pas avoir convaincu tout le monde. Donc il est normal, je pense, que les personnes, alors c'est beaucoup les jeunes, mais pas que, mais bon, les jeunes se sentent concernés dans leur avenir personnel, donc à la fois soient très inquiets des événements qui surviennent, des données scientifiques auxquelles on a accès sur les perspectives, et puis en effet de se confronter à une espèce de parole négative, de déni ou en tout cas d'inaction. Alors moi je dirais à Joseph, la première chose à faire c'est de penser à lui, de se mettre en effet un peu quand même dans des situations de sécurité, c'est-à-dire par exemple prendre du temps pour lui, gérer son stress comme ça, parce que c'est la première chose à faire. Il faut d'abord penser à son bien-être. Ça ne veut pas dire de nier le problème du tout, là à nouveau, mais ça veut dire quand même de songer à se protéger. Alors il y a plein de manières de faire qui sont très intéressantes, qu'on avait un peu étudiées lorsqu'on a travaillé la question. C'est les solutions qui sont les solutions habituelles de lutte contre l'anxiété. Donc, il y a des thérapies, il y a la relaxation, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire avec la nature. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que les préoccupations et les valeurs portées par les personnes les plus inquiètes peuvent les ramener vers la nature, vers le sentiment de bien-être avec la végétalisation, enfin, en proximité avec la nature. Et les valeurs, ça peut être aussi de protéger la nature. Donc, il y a cette notion de penser à soi. Et puis après, la deuxième chose... Alors, un engagement qui va aller jusqu'à parfois faire soi-même beaucoup d'actions, alors dans sa vie propre ou dans des associations. Il y en a qui vont jusqu'à militer, jusqu'à être parfois même engagés politiquement ou dans leur métier. Et puis, l'autre pan qui concerne toute la société, moi je dirais que ce n'est pas juste de considérer qu'il faut aider Joseph ou les jeunes à être moins inquiets, c'est plutôt d'écouter ce qu'ils disent. Et nous, ce qu'on fait en première intention quand on reçoit ces personnes, c'est évidemment de légitimer leurs paroles, de dire bah oui, vous êtes des espèce de lanceur d'alerte, je dirais, parce qu'on peut présenter les choses comme ça. Et il faut qu'on vous écoute, parce qu'il y a des choses à faire collectivement. Et je pense qu'il ira mieux, et tout le monde ira mieux, si on s'aperçoit que dans les faits, il y a des choses qui changent. Et c'est à ça que ça sert, en fait, l'anxiété. C'est à pousser à l'action. Et donc, tant que la société sera un peu fermée à ça, je pense qu'ils auront raison de s'inquiéter. Et je dirais que ce n'est pas du tout une maladie, dans ces cas-là. C'est plutôt d'être lucide. Alors, il faut éviter de souffrir trop personnellement. Donc, c'est là qu'on a besoin souvent de se faire aider, si vraiment ça va trop loin, notamment quand ça va jusqu'à la dépression, parce que ça peut être le cas, une espèce de burn-out écologique, on en voit. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va masquer le problème, parce que c'est toujours ça qu'il faut trouver comme équilibre.
Vous en pensez quoi, Joseph, de toutes ces explications du professeur Pellissolo ? Joseph, est-ce que vous êtes avec nous ? Parce qu'on entend les oiseaux, mais je n'entends pas votre voix. C'est déjà rassurant d'entendre ces petits oiseaux. Vous en pensez quoi de ces conseils ? Vous avez déjà un engagement personnel en faveur de l'environnement ou de l'information et de cette manière de sensibiliser les jeunes qui sont autour de vous ?
Oui, un peu beaucoup, un peu trop même. Parce que je suis activiste climat dans deux associations, deux ONG, Yapania et Genèse Verte. On est peu de jeunes, on n'est pas vraiment assez nombreux, bien que nous essayons de faire de notre mieux.
Oui.
Mais il y a aussi ces côtés, professeur. Il y a les médias aujourd'hui qui jouent vraiment un grand rôle dans l'intensification des choses. Alors, comment on peut équilibrer l'aspect information et n'est pas trop effrayé.
Ouais,
parce que j'ai l'impression, avec tout ce qu'on voit dans les médias, voilà, c'est vraiment...
Bah, je suis d'accord, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, même si j'y travaille. Se protéger, enfin, il y a médias et médias aussi, c'est sûr que... Est-ce que vous diriez que l'impact des images, c'est beaucoup plus fort, par exemple, que, on va dire, je ne vais pas défendre la presse écrite ou la radio, hein, je ne vais pas non plus faire un média contre l'autre, mais est-ce que, d'un point de vue psychologique et santé mentale, l'impact est différent ?
Oui, oui, ça, c'est sûr, absolument. En tout cas, pour les images les plus violentes, hein, notamment quand des personnes sont elles-mêmes, enfin, sont montrées victimes, ça, c'est ce qui est le plus dur, et dans la mesure du possible, il vaut mieux se protéger de ça et avoir des mots avant tout, donc le langage écrit, le langage oral. Et comme vous disiez, il y a information brute où on peut être inondé en permanence. Ça, a priori, il faut limiter le flux parce qu'il suffit d'avoir l'information une fois par jour, enfin des choses comme ça qu'on peut organiser. Et puis, il y a la distance, l'élaboration autour de l'information qui est majeure. Donc, bon, c'est le rôle des journalistes d'aider à ça. Et il faut se fier plutôt à ces sources-là et s'appuyer plutôt là-dessus. Alors, je crois que ce qu'a évoqué aussi un peu Joseph, c'est les risques de désinformation. Et on sait aussi que malheureusement, sur les réseaux actuels ou sur les médias, il y a beaucoup de désinformation. Donc, il faut faire le tri. Mais donc là, se rabattre sur les médias un petit peu institutionnels ou de qualité pour avoir cette respiration, je dirais, sur les informations les plus brutales. Il faut les métaboliser, c'est comme tous les événements. Et se protéger de ça, c'est aussi en parler. Et donc, bravo Joseph pour vos engagements. Et tout ce qui peut être partagé est toujours mieux pour mieux gérer ses émotions.
Merci en tout cas Joseph pour ce témoignage. Très très bonne journée à Kinshasa. Professeur, on va poursuivre notre échange avec d'autres témoignages. On va donner la parole à l'un de vos confrères en ligne de Dakar, juste après un petit voyage dans le temps, 1978. Extrait de Starmania, France Gall, Daniel Balavoine. Plus rien à perdre sur RFI. Priorité santé sur RFI, éco-anxiété, fatigue informationnelle, comment ne pas céder à la déprime ambiante sans devenir complètement indifférent, toujours avec le professeur Antoine Pellissolo, psychiatre chef de service à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Les réactions face aux angoisses, professeur Pellissolo, vous avez dit tout à l'heure ne pas tout psychiatriser, parce que c'est vrai qu'il y a une part de cette déprime qui peut être tout à fait normale et même plutôt saine, ne pas être indifférent.
Absolument, de s'inquiéter, de constater les choses, c'est une part de lucidité, hein, comme je le disais. Et donc les réactions émotionnelles, elles ont toutes leur sens. Après, évidemment, chacun a des fragilités qui peuvent être réactivées. On l'a dit tout à l'heure avec les traumatismes éventuellement antérieurs. Et puis tout ce qu'on a vécu et qui peut être aussi difficile à associer à cela. Donc il ne faut pas psychiatriser, mais il ne faut pas non plus négliger des choses qui peuvent être des souffrances et donc en parler quand il faut. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, mais en parler autour de soi avec ses proches pour que la parole puisse circuler. Et puis quand on a vraiment l'impression qu'il y a des souffrances persistantes, hein, souvent le problème c'est quand ça dure trop longtemps, de se poser des questions qui reviennent en boucle ou de se sentir un peu désespéré, plus ou moins. Là, en tout cas, une évaluation avec un professionnel peut au moins permettre d'évaluer, enfin d'avancer sur des solutions.
Alors, quand on observe justement en santé mentale, professeur Pellissolo, on parle de ce qui peut aller jusqu'à des troubles anxieux, mais il y a l'autre côté de la pièce, le déni, la politique de l'autruche. Alors là aussi, on peut se poser des questions en termes de santé mentale. Est-ce que c'est une forme de protection individuelle et collective, parce qu'on balaye du revers de la main toutes les conclusions des scientifiques, et, ou est-ce que c'est une croyance alternative? Et d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les psychiatres?
Oui, pas mal. En effet, ce sont des questions intéressantes. Alors, il y a tous les niveaux. Enfin, tout cela est vrai. Et c'est ça qui rend les choses un peu complexes, mais intéressantes. Le déni fondamental, celui que nous permet de vivre notre vie en sachant qu'il y a une finitude, hein, tout bêtement, et appuyé sur une spiritualité ou juste une énergie vitale, elle est cause substantielle de notre espèce, de notre existence humaine. Donc celle-là, elle a un sens de construire sa vie dans l'espoir et dans une projection dans l'avenir, malgré cette finitude dont on a conscience assez vite. Hein, quand les enfants grandissent, bah, c'est évidemment un âge dans lequel on peut se confronter avec cette réalité. Et après, il y a des dénis, je dirais, plus pathologiques, dans lesquels, on se masque la réalité sur des sujets, pour autant sur lesquels on devrait agir. Donc là, typiquement, le changement climatique, en tout cas la transition écologique ou les actions à mener, malheureusement là, le fait de ne pas vouloir les regarder en face, c'est ne fait que reculer le problème, aggraver le problème. Et là, en effet, alors c'est pas un processus forcément psychiatrique, ça peut être juste des mauvaises habitudes, et notamment des mauvaises habitudes collectives, hein, puisque c'est collectif, ces réactions-là, on les aborde pas dans le débat public, les politiques les abordent pas, enfin les campagnes électorales par exemple portent peu sur ces sujets-là finalement, alors qu'il y a des groupes écologiques et tout le monde se revendique écologiste, mais c'est souvent parce que les solutions sont immenses, c'est du long terme et on est plutôt dans le court terme, donc il y a du déni individuel, personnel, qu'il faut un peu creuser quand on se pose des questions. Et puis, il y a un déni collectif, effectivement, qui est celui des réponses à trouver. Et je trouve que là aussi, ce que je disais sur les jeunes tout à l'heure, il faut les écouter parce que c'est eux qui, d'une part, seront concernés. Et puis, c'est eux qui peuvent regarder les choses avec un œil un peu neuf en disant « Mais là, vous allez dans le mur, les amis. » Enfin, il faut réagir.
Il faut les écouter, justement. C'est ce qu'on va faire en partant pour le Cameroun tout de suite.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Fidèle. Fidèle, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 26 ans, Fidèle. Vous, ce qui vous angoisse, c'est l'actualité. Est-ce qu'il y a récemment des événements qui vous ont particulièrement marqué ou choqué?
Oui.
Mais est-ce que vous pouvez me les citer, s'il vous plaît, Fidèle?
D'accord, merci, bonjour.
Je vous en prie, Fidèle. Alors, en préparant l'émission, vous nous avez dit que, en suivant l'actualité, certaines choses vous posaient problème. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
En fait, j'ai commencé à ne pas trop m'intéresser à l'actualité à partir de 2022.
Oui.
Surtout venant des chaînes télé. L'actualité, ça a commencé avec les événements russo-ukrainiens.
Oui.
Ensuite, c'était une attaque terroriste entre la zone du lac Tchad.
Oui.
Et dernièrement, c'était les conflits israélo-palestiniens avec les massacres et tout et tout.
Ça vous fait quoi quand vous voyez ces images, quand vous suivez cette actualité, vous ressentez quoi?
De la tristesse.
De la tristesse. Et ça reste longtemps après que vous ayez visionné ces images? Ça vous, on va dire, ça vous suit en quelque sorte le soir, pendant, quand vous devez vous endormir, ou ça s'arrête quand vous arrêtez de regarder ces images ou que vous éteignez la télé?
Même si j'éteins la télé, j'y pense souvent, j'imagine la situation de ces personnes qui vivent les événements. Et je me dis, est-ce que cette situation s'est calmée ou elle s'est accentuée?
Est-ce que vous avez le sentiment de vous mettre dans la peau des victimes d'une certaine manière, Fidèle?
Oui.
Et est-ce qui fait que vous avez décidé de vous éloigner de cette information? De quelle manière?
Ça fait pratiquement depuis janvier que je ne suis plus les chaînes télé d'information, évidemment. Et là, j'ai même quitté les réseaux. Je ne suis plus sur les réseaux pour voir les images et tout. Parce que ce qui me choque le plus, c'est les images et la tristesse que je ressens à la fin.
Vous avez quitté les réseaux, ça a été de votre propre chef, vous avez lu des conseils, comment ça vous est venu cette idée? Parce que c'est vrai que quand on a 26 ans, se couper des réseaux, ce n'est pas forcément une démarche facile.
C'est venu de moi, mais je n'ai même pas suivi les conseils et j'ai décidé de m'éloigner des réseaux.
Est-ce que ça va mieux depuis, Fidèle?
Oui, on peut le dire, mais j'y pense parce que je ne suis pas les informations à la télé, mais des fois, j'essaie de suivre les titres des journaux à la radio. Et même ça, j'ai commencé à ne plus trop suivre les informations à la radio et je ne suis que beaucoup plus de émissions.
Est-ce que c'est ça justement qui vous pose problème? C'est que vous avez envie de rester connecté au monde, mais finalement, ça vous fait trop de mal?
Exactement, c'est ça mon problème.
Oui. On entend bien cette problématique et j'imagine que vous n'êtes pas du tout le seul à ressentir cette chose. Professeur Pellissolo, un vrai cas de fatigue informationnelle. D'ailleurs, il a trouvé lui-même le remède. Mais malgré tout, ce n'est pas pour autant que c'est complètement réglé, cette affaire.
Bien sûr. Alors, vraiment, ce qu'on entend dans les paroles de Fidèle, c'est tout bêtement ce qu'on appelle l'empathie. Hein, l'empathie qu'on ressent en voyant la souffrance des autres. Qui est vraiment une fonction essentielle aussi de notre fonctionnement humain. Mais là, malheureusement, il n'y a que le négatif et l'inquiétude, voire la désespérance que ça provoque, de voir toutes ces mauvaises nouvelles et de voir la souffrance des autres. Donc la réponse, en effet, il y a deux types de réactions souvent chez les gens. Il y a soit des gens qui s'hyper-allergénisent, on va dire, qui sont en permanence à recherche quand même d'informations, probablement pour se rassurer, mais ça ne marche pas, donc on continue à chercher. Et puis d'autres qui préfèrent couper. On peut dire c'est plutôt sain, en effet. Alors, couper plus ou moins, hein, totalement, ça serait difficile, mais en tout cas, de réguler, prendre de la distance, arriver à avoir la bonne distance, hein, comme on dit, et ça, c'est plutôt bien. Donc, ça peut être vraiment souvent ce qu'on conseille, c'est tout ce qui est notification en direct, d'essayer d'arrêter, parce qu'il n'y a pas d'urgence en général, je vous disais, mais d'avoir un réseau plutôt de confiance. Hein, on ne peut pas se couper des autres, par contre. Donc, le réseau, au départ, ce sont des outils qui peuvent être très utiles pour maintenir le lien social, même s'il est un peu virtuel. Donc, ce n'est pas se couper de tout le monde, hein, parce que ça serait excessif, mais de sélectionner et d'avoir des... Alors, vraiment aussi d'avoir beaucoup d'autres sources qui sont des sources de joie, de plaisir, qui vont contrebalancer, qui vont donner des moyens de réagir. Donc, ce qu'on peut vraiment conseiller dans ces cas-là à ces personnes, c'est de s'ouvrir au maximum sur d'autres choses. Et là, c'est vraiment en fonction de ses aspirations, mais ça peut être les loisirs, ça peut être pour certains la spiritualité, ça peut être les arts, la beauté, enfin le sport, enfin toutes ces choses-là qui pour prendre la place, parce que la nature hors du vide, si on laisse la place, bah, le négatif prend toute la place. On en a besoin d'être sensible au négatif pour se protéger, hein, c'est les fonctions d'un peu de survie qui sont liées à la peur, mais il faut pas laisser toute la place parce que sinon on perd des ressources en fait pour faire face au négatif.
Un grand merci en tout cas Fidèle pour ce témoignage. On va partir maintenant pour le Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
Professeur Idrissa Ba, bonjour.
Bonjour.
Alors, professeur agrégé en psychiatrie de l'adulte, enseignant-chercheur à l'université Charenta Diop de Dakar et aussi spécialiste en addictologie, notamment au sein du centre Le Sépia de Dakar, où on vous avait rendu visite avec Priorité Santé. Tout à l'heure, justement, votre confrère, le professeur Pellissolo, disait que face à cette anxiété climatique, à toutes ces angoisses, on pouvait... hélas, dans certains cas, se tourner vers des substances pour essayer de trouver, bien sûr, dans un tout premier temps, une forme de soulagement. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans votre pratique, professeur Idriss Abba ?
Oui, absolument. C'est des situations auxquelles nous sommes confrontés de plus en plus.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des événements liés à l'actualité, est-ce que vos patients en parlent, qui peuvent les fragiliser sur le plan de la santé mentale ?
Ben absolument, parce que quand on parle d'éco-santé, c'est d'éco-anxiété du moins, c'est une forme d'anxiété réactionnelle face à des changements qu'on note dans son environnement. Il peut s'agir de diverses formes de stress liées à l'environnement, que ce soit des menaces, que ce soit des changements auxquels on n'est pas suffisamment préparé. Et puis qui peut conduire effectivement à ce vécu anxieux que la personne peut éprouver.
Dans votre pratique, les patients, ils citent quoi comme source d'anxiété liée à l'environnement ?
Ben, il y a plusieurs motifs qui peuvent être évoqués. Ça dépend. On peut être confronté à quelque chose de traumatique. Ça peut être lié aux changements auxquels on n'était pas prévu, les catastrophes notamment, les changements climatiques. Et ça peut s'exprimer de plusieurs formes.
Depuis le début de l'émission, on entend beaucoup les jeunes, la jeunesse anxieuse. Est-ce que c'est également quelque chose que vous constatez ?
Oui, tout à fait. Les jeunes sont de plus en plus concernés par ces phénomènes. Et c'est eux qui vivent le plus ces événements, ces changements qui s'opèrent dans leur environnement.
Est-ce qu'ils sont aussi fragilisés par le fait qu'ils ressentent une forme non seulement d'impuissance, mais aussi d'inaction, parce que quand on écoute l'actualité ou les premières mesures qui sont prises, ce sont rarement des mesures en faveur de l'environnement.
Oui, en fait, ils ne sont pas suffisamment, en tout cas, préparés face à ces changements. Et on sait qu'un peu l'incertitude, tout ce qui est incertitude, tout ce qui est... soudaineté, tout ce qui est imprévisible est source d'angoisse et d'anxiété. Et c'est les jeunes qui en souffrent le plus et qui l'expriment de plusieurs manières.
Il y a deux volets dans cette émission. On parle aussi bien de cette inquiétude face à tout ce qui se passe en termes d'environnement, mais aussi par rapport à l'actualité. Est-ce que vous, professeur Idriss Abba, ça fait partie des plaintes des patients, la marge du monde ? C'est vrai qu'il y a eu ces derniers mois des images particulièrement éprouvantes, qu'il s'agisse de ce qui s'est passé au Proche-Orient, à Gaza, en Israël, que ce soit également depuis de longs mois, voire plusieurs années, ce qui se passe en Ukraine par rapport au conflit avec la Russie, la crise migratoire, je pense ça aussi particulièrement quand on est au Sénégal avec tous les jeunes qui partent au péril de leur vie sur les pirogues, sur l'Atlantique. Est-ce que tout ça, c'est évoqué en consultation ?
Oui, tout à fait. Les jeunes vraiment évoquent cette incertitude par rapport à leur avenir. Hein. Ils se posent beaucoup de questions, ils ont envie d'entreprendre des choses, mais ils ne savent pas comment le faire, ils ne sont pas suffisamment bien accompagnés, ils ne savent pas ce que ça leur réserve le futur. Ils ont des projets qu'ils n'arrivent pas à concrétiser, ou bien ils ne voient pas comment, avec qui, où le faire.
D'autant plus, professeur Idriss Abba, que dans votre contexte, hein, évidemment, l'accès aux spécialistes en santé mentale, ce n'est pas quelque chose d'évident. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes, justement, pour retrouver force, reprendre pied lorsqu'ils sont inquiets dès le lever, dès le réveil ?
Ah, mais ça, c'est tout le challenge, c'est tout le défi vraiment qui se pose par rapport à cette jeunesse qui nous interpelle, qui nous pose des questions, qui n'ont pas d'espace, en tout cas, où ils peuvent faire part de leur malaise et de leur mal-être. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est peut-être revenir aux valeurs des familles, aux valeurs des communautés, aux valeurs, parce que ici chez nous, on a des principes quand même qui sont assez importants, ce qu'on appelle la solidarité intrafamiliale, la solidarité dans la communauté, la persévérance, ce qu'on appelle chez nous le mouine, le djom, etc. Et c'est des valeurs quand même qu'on a de plus en plus tendance à mettre de côté, parce qu'il n'y a plus cet espace qu'on avait de dialogue et d'échange.
Se raccrocher à ses racines d'une certaine manière, professeur Idriss Abba, merci beaucoup. Je voyais dire oui, c'est la conclusion de notre échange. Professeur Pellissolo, vous disiez tout à l'heure se connecter avec la nature, l'environnement et l'environnement humain également.
Absolument, c'est la même chose, hein. C'est le monde, la nature, et puis je rajouterais l'instant présent, c'est-à-dire ici et maintenant, parce que l'avenir est ce qu'il est avec toutes ses perspectives, il faut vivre avec un certain nombre de mauvaises nouvelles potentielles, mais vivre aujourd'hui et donc ancrer les choses dans le quotidien. Donc le collègue disait, bah, la famille, les proches, ça peut être aussi ses projets personnels, se sentir utile, donner du sens, et plutôt vivre le temps présent plutôt que d'être dans le passé ou dans l'avenir.
Ça me donne envie de citer un de nos collègues, Laurent Sadou, « Chaque jour est une vie ». Merci, professeur Antoine Pellissolo.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu à notre invitation avant de se dire tout à fait au revoir. Un duo, Maria Siga et Audi, avec ce titre, « Boukanak ». Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Louise Calédec, Talim Pou, Didier Bleu, Didier Cherouz, à la réalisation. Demain, nous allons parler des accidents de la main dans Priorité Santé, cause majeure de consultation aux urgences. Comment les prévenir, jardinage, bricolage, accidents professionnels, savoir mieux protéger ses mains, surtout pour éviter toutes les séquelles. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, notre métier.